Bonjour à toutes et à tous, Pascal Sim pour ce journal d'ONU Info. Le HCR appelle la Grèce à désengorger les centres de réception de demandeurs d'asile sur les îles de la mer Égée. À l'Assemblée générale de l'ONU, Madagascar explique son engagement à contrer le changement climatique. Au Soudan, l'OMS lance une campagne de vaccination contre le choléra. Et en dossier, nous reviendrons sur la lutte contre la désertification et le changement climatique avec Ibrahim Chao. Le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, exhorte la Grèce à faire sortir d'urgence des milliers de demandeurs d'asile, des centres d'accueil surpeuplés sur ces îles de la mer Égée. Ces centres ont reçu plus de 10 000 demandeurs d'asile en septembre et en accueillent actuellement 30 000, soit 8 fois plus que leur capacité maximale. Une situation inhumaine, estime le HCR, qui appelle à accélérer les transferts des personnes vers le continent et à ouvrir d'autres places d'accueil au sein de l'Union européenne. Lise Trossel est porte-parole du HCR. Elle décrit les conditions sur ces îles.
La situation à Lesbos, Samos et Kos est critique. Le centre de Moria à Lesbos, par exemple, abrite 12 600 personnes. Et ça, c'est 5 fois sa capacité. Dans une installation sommelle à proximité, 100 personnes partagent une unique toilette. C'est la même chose sur l'île de Samos. Le centre de réception de Vassy abrite 5 500 personnes. Et ça, c'est 8 fois sa capacité. La situation des jeunes non accompagnés est dramatique. Il y a plus de 4 400 enfants au total. Leur situation est particulièrement inquiétante, étant donné que seul un jeune de 4 est logé dans un abri adapté à son âge. À Montréal, par exemple, environ 500 enfants sont logés dans un vaste entrepôt de tentes avec des adultes auxquels ils ne sont pas apparentés. À Samos, plus d'une douzaine de fillettes non accompagnées dorment à tour de rôle dans un petit container. Tandis que d'autres enfants sont forcés de dormir sur les toits des conteneurs. Il faut mettre un terme à cette situation.
Madagascar est en première ligne face à la menace du changement climatique et investit pour en atténuer les conséquences pour son territoire et sa population. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre du pays, Christian Tsai, à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies samedi dernier. Le chef du gouvernement malgache explique les réponses de son pays face au changement climatique.
Responsable d'au moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, Madagascar subit pourtant de plein fouet les conséquences du changement climatique, comme les cyclones tropicaux plus nombreux et plus violents, la sécheresse, l'inondation, les troubles de calendrier agricole. Mais conscient de sa responsabilité, Madagascar démontre aujourd'hui une volonté politique ferme dans cet effort collectif de mobilisation contre le changement climatique. Dans ce cadre, Madagascar poursuit sans relâche les efforts de préservation et de conservation de la biodiversité, des ressources naturelles et environnementales existantes, tout en s'engageant à la mise en œuvre d'un programme ambitieux et audacieux de réforestation d'une superficie d'au moins 200 000 hectares en 5 ans, à raison d'au moins 20 millions d'arbres plantés chaque année, et ce pour que Madagascar redevienne ce qu'elle était, l'île verte. Il convient de signaler les conséquences multiples du changement climatique dans le sud du pays et la volonté politique affirmée du gouvernement pour y apporter des réponses structurantes et ambitieuses.
Au Soudan, 8 personnes ayant contracté le choléra sont décédées. C'est ce qu'a indiqué mardi l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, citant des chiffres du gouvernement. Face à cette urgence sanitaire, l'OMS a déployé des experts dans les états du Nil Bleu et de Sennar pour lutter contre le choléra. Elle soutiendra également une campagne de vaccination contre la maladie. Les précisions de Tariq Jazarevic, porte-parole de l'OMS, au micro d'Alpha Diallo.
On est en train de planifier une campagne de vaccination contre le choléra dans certaines localités des 12 États, Blue Nile et Sennar. On s'attend à ce que cette campagne débute mi-octobre avec pour l'objectif la vaccination de 1,6 million de personnes.
Par rapport aux chiffres de la semaine dernière, est-ce que vous êtes rassuré par l'évolution de la maladie, de l'épidémie?
Ce qu'on voit, c'est que tous les partenaires se sont mis ensemble pour travailler. Donc, on a réussi à donc mettre en place les mesures qui sont nécessaires. Essayer donc d'apporter l'accès à l'eau potable à des communautés affectées. Mettre en place des centres de traitement pour ceux qui tombent malades. Le choléra, c'est une maladie qui n'est pas difficile à traiter. Il suffit juste venir très tôt dans un centre de traitement, être hydraté. Et puis, donc, on ajoute à cela donc une vaccination qui aura lieu bientôt.
Le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, Ibrahim Chao, a participé au sommet Action Climat le 23 septembre. Son message aux participants du sommet, l'action climatique se passe essentiellement sur Terre. Au micro de Jérôme Bernard, il explique pourquoi la conservation et la restauration des terres sont l'action climatique la moins chère et la plus efficace et comment elle crée aussi beaucoup d'emplois.
L'action climatique se passe essentiellement sur Terre. Il y a bien sûr l'action en mer aussi. Mais nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes des terriens. Et donc notre action, elle se passe sur la conservation des terres. La terre nourricière qui nous alimente, qui nous fournit l'eau que nous consommons, qui nous fournit une bonne partie de l'air que nous respirons. La terre qui permet aux jeunes et aux moins jeunes de produire, de s'épanouir. L'absence de ressources sur le milieu terrestre conduisent à des situations de conflit, de compétition pour l'accès à l'eau et à la terre. Donc le message est très simple, c'est que la conservation des terres, la restauration des terres est la solution la moins chère, la plus efficace aujourd'hui, c'est l'action climatique. Vous savez que jusqu'à 30% des gaz qui sont déjà émis dans l'atmosphère peuvent être recarbonisés dans le sol. Donc il faut sortir le carbone de l'atmosphère pour le remettre dans le sol, parce que le carbone appartient à la terre. Donc avec la restauration des terres, on peut arriver à ça. Mais en même temps, la restauration est une solution qui a des ambitions multiples. Dans ce sens que ça fournit de l'alimentation, ça assure la paix et la sécurité, ça donne le pouvoir aux femmes, aux jeunes, ça réduit l'immigration irrégulière. Donc la restauration des terres est une activité qui crée beaucoup d'emplois.
Au début de ce mois, la conférence de la lutte contre la désertification, la COP14, a eu lieu à New Delhi, en Inde. Avez-vous été satisfait des résultats de cette conférence?
C'était une très belle COP, certainement une COP charnière, parce qu'on célèbre cette année les 25 ans de l'organisation. Mais notre satisfaction, elle n'est pas seulement de réunir des gens. C'est vrai qu'on a eu jusqu'à 9000 personnes qui ont été enregistrées sur cette COP, 197 parties. Mais notre satisfaction se manifeste sur le terrain. Quelles sont les actions que l'on peut mener? Comment on peut traduire les verbes en actions? Beaucoup de décisions ont été prises à cette COP. Mais ce que nous souhaitons, c'est que le monde s'ouvre maintenant vers l'action à grande échelle pour la restauration des espaces. Nous perdons toujours jusqu'à 23 hectares de terre par minute. Et ça, ce n'est pas acceptable parce que ce que cela veut dire, c'est qu'avec une population croissante, nous n'arriverons peut-être pas à satisfaire à tous les besoins alimentaires dans le monde. Et c'est certainement une situation qui deviendra de plus en plus difficile pour certains pays. Donc nous, ce que nous recommandons, c'est de traduire les paroles, les décisions en actes concrets sur le terrain. Nous voyons aujourd'hui que dans des régions comme l'Afrique, il y a des initiatives de grande échelle, comme la Grande Muraille Verte, qui s'étend sur 8000 km entre l'Atlantique et la mer Rouge. Nous voyons qu'en Amérique latine, il y a une initiative qui s'appelle l'initiative 2020, qui vise également à restaurer les terres. De même, au Pakistan, le Premier ministre annonce ce qu'il appelle le Billion Tree Tsunami, qui est vraiment des termes très forts. L'Inde fait la même chose, la Chine, la Mongolie. Il y a plein d'initiatives aujourd'hui au niveau individuel. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait une coalition au niveau mondial, au niveau politique, créer une plateforme politique pour que l'action climatique, l'action pour la conservation de la biodiversité, se manifeste par la restauration des terres. Transformer des terres dégradées en des terres productives. Transformer des zones arides en des zones beaucoup plus vertes. Conserver les petits points d'eau, les zones humides qui sont parfois dans des milieux arides, qui constituent véritablement des trésors biologiques dans des milieux où il n'y a pas d'autres opportunités pour les populations.
Et comment peut-on, selon vous, mobiliser l'opinion publique internationale sur cette question de la restauration des terres dégradées et sur la réduction de la dégradation des terres?
Si on commençait déjà par les leaders politiques, imaginons les 60 leaders qui étaient là pour l'action climatique, s'ils comprennent tous que la meilleure action climatique est une action de conservation des terres. Si on commençait par les jeunes qui aujourd'hui manifestent à juste titre, se souciant de leur avenir, mais manifestant cela en forme de 2 degrés, 3 degrés. Mais les 2 degrés, 3 degrés, ils se manifesteront par une réduction de la production alimentaire ou par des pertes des ressources en eau ou des pertes par rapport à la santé humaine. Donc la mobilisation, elle se fera lorsque le monde comprendra que les problèmes de changement climatique, le problème de la planète, c'est en gros la dégradation du milieu naturel. Parce que c'est la nature qui est la fondation, c'est la nature qui est le portefeuille des personnes les plus pauvres. Ils n'ont pas de compte bancaire, ils ne sont pas dans le marché fictif international. Ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils peuvent produire quotidiennement pour leur nourriture et pour satisfaire aux besoins d'une population croissante.
Fin de ce journal d'ONU Info à retrouver sur notre page internet et sur nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité et à très bientôt.